Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée. Sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoelle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous.
C'est vraiment une bonne journée. C'est un grand moment d'histoire que nous vivons.
Au revoir des Anglais à l'Europe entre euphorie et regret. Après 47 ans de vie commune, nous serons à Londres dès le début de ce journal. Le Premier ministre Boris Johnson y voit le début d'une nouvelle acte historique, une nouvelle ère de coopération amicale avec l'Union européenne. On demandera à Yves Bertoncini, le président du mouvement européen en France, ce qu'il faut attendre des prochaines négociations avec Bruxelles. Il est mon invité. Première nuit de quarantaine à Carry-le-Rouet pour les 180 Français rapatriés de Wuhan et qui sont pris en charge par la Croix-Rouge.
Certains sont fatigués parce que le périple a quand même été assez long. Les personnes qui sont maintenant arrivées sont contentes d'être arrivées. Franchement, là, on a des gens qui sont plutôt sereins, calmes.
3239 morts sur les routes de France l'an passé, chiffre en recul par rapport à 2018, un résultat salué par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.
C'est un chiffre historiquement bas. C'est même le chiffre le plus bas que nous ayons connu depuis que nous enregistrons la mortalité sur la route.
Nous serons au Havre avec les premiers pas d'un candidat en campagne, le Premier ministre Édouard Philippe. La mort de la romancière Marie-Guinness Clark à l'âge de 92 ans, la reine du suspense. Le journal des sports avec l'américaine Sophia Kenin, vainqueur de l'Open d'Australie à 21 ans. C'est son premier titre en grand chelem. Le temps de ce samedi, la pluie au rendez-vous sur les trois quarts du pays, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec tout terrain, les émissions des reporters d'Europe 1. Nous serons direct avec nos deux envoyés spéciaux au Royaume-Uni pour cette nuit historique du Brexit. Et puis on parlera de la course contre la montre des scientifiques pour trouver un vaccin contre le coronavirus.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Un moment historique pour le Daily Mail, le jour où on a dit au revoir à l'Europe pour le Guardian. Voilà pour les principaux titres de la presse anglaise ce matin, maintenant que le Brexit est consommé. Hier soir, on a vu des scènes de joie à Londres chez ceux qui fêtaient la sortie de l'Union, quand d'autres avaient sorti des bougies pour faire leur deuil de ces 47 ans de vie commune. Johanna Chabas, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. Alors, quelle est l'ambiance ce matin dans la capitale britannique ?
Eh bien, tout comme hier soir, les Britanniques sont partagés. J'ai rencontré Peter, un fervent partisan du Brexit. Il a fait la fête toute la nuit hier et aujourd'hui, il s'est réveillé avec le sourire aux lèvres.
C'est vraiment une bonne journée. C'est un grand moment d'histoire que nous vivons. Ça fait longtemps que j'attends ça, depuis 25 ans. Pour moi, c'est assez émouvant.
Mais évidemment, ces scènes de liesse pour fêter le Brexit n'ont pas plu à tout le monde. Tim, un amoureux de l'Union européenne, n'arrive pas à s'en remettre.
C'est une honte. L'attitude de beaucoup est tellement gênante. Je pense que le Royaume-Uni n'est plus qu'une petite île insignifiante et je ne sais même pas s'il va y survivre.
Aujourd'hui, eh bien, le premier jour depuis 47 ans que le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne. Mais les Britanniques continuent de respecter les droits et les devoirs de l'Union jusqu'à la fin d'une période de transition. Rainey a donc encore du mal à voir les effets du Brexit.
Ça n'a pas encore changé mon quotidien. Je pense que ça va prendre du temps. J'espère qu'on aura une stabilité financière au bout du compte. J'espère que ça va aller.
Sa peur que le gouvernement ne réussisse pas à trouver d'accord commercial avec l'Union européenne avant la fin de cette période de transition en décembre 2020.
Alors, on l'a bien compris avec ce que vous venez de nous dire, Johanna Chabas, tout reste à construire pour une nouvelle relation entre Bruxelles et le Royaume-Uni. 11 mois donc de négociations pour le Premier ministre Boris Johnson, qui a salué hier soir avec beaucoup d'emphase la sortie de son pays de l'Union.
Ce n'est pas la fin, mais le début. C'est le moment où le rideau se lève sur un nouvel acte de notre grand drame national. Quand je vois nos atouts formidables, nos scientifiques, nos ingénieurs, nos universités, nos militaires, quand je vois le potentiel de ce pays qui attend d'être libéré de ses chaînes, je sais qu'on peut faire de cette opportunité un succès retentissant. Et quels que soient les obstacles sur le chemin, nous réussirons. That we will
succeed. Boris Johnson, le Brexit, ses conséquences sur l'avenir de l'Union et que faut-il attendre de cette période de transition ? On en parlera avec mon invité Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, président du mouvement européen en France. Il est mon invité à 12h45.
Midi 34. La suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Et un deuxième avion qui a quitté Paris cette nuit, direction Wuhan, pour récupérer des ressortissants français toujours présents dans cette ville qui est le principal foyer de l'épidémie de coronavirus. 180 Français sont déjà arrivés depuis hier dans le sud de la France. Ils ont été placés en quarantaine dans un centre de vacances des Bouches-du-Rhône, à Carry-le-Rouet. Aucun cas de coronavirus détecté parmi eux. Les voilà donc en quarantaine pour 14 jours. Et après le stress de l'évacuation, c'est le retour au calme pour eux, Stéphane Frangy.
Oui, place à la sérénité, nous rapporte le chef des équipes de la Croix-Rouge sur place, Marc Ziltmann. Et il faut dire que tout a été étudié pour, avec le choix de ce site de vacances 3 étoiles qui est situé juste au bord de l'eau.
C'est vraiment serein, il n'y a pas de souci particulier. Alors certes, certains sont fatigués parce que le périple a quand même été assez long. Les personnes qui sont maintenant arrivées sont contentes d'être arrivées. Franchement, là, on a des gens qui sont plutôt sereins, calmes. C'est un site de vacances, donc on pourrait imaginer que les gens ici se comportent, je dirais, comme des touristes. La seule spécificité, c'est qu'ils portent tous un masque, y compris le personnel de la Croix-Rouge, de la Sécurité civile et le personnel de la réserve sanitaire.
Voilà, au programme maintenant des tests de détection du virus. Et ensuite, eh bien, il est prévu d'occuper ces familles pour que cette quarantaine ne soit pas vécue comme une détention.
Ils ont la liberté d'aller et de venir dans l'enceinte du site, mais en revanche, ils ne peuvent pas sortir et ils ne peuvent pas recevoir de visite. Donc, on va organiser ce séjour de façon à ce qu'il se passe le mieux possible. On va aussi proposer des animations, notamment on va occuper les enfants.
Et il y aura certainement un suivi scolaire à organiser pour ces enfants, nous explique ce responsable de la Croix-Rouge. Bref, la vie, tout doucement, reprend son cours sous la pinède de Carry-le-Rouet.
Et Stéphane Frangy à Carry-le-Rouet pour Europe 1. Situation autrement plus préoccupante à Chine. La Chine de plus en plus isolée avec la multiplication des mesures barrières pour stopper la propagation du coronavirus. Dernier exemple en date, le géant informatique Apple qui va fermer tous ses magasins dans le pays. 259 morts, 12 000 personnes contaminées. C'est le dernier bilan des autorités ce matin. Cette épidémie, la course contre la montre des scientifiques pour trouver un traitement et un vaccin. On y reviendra dans Tout Terrain à 13h avec la spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez. C'est un Premier ministre candidat au municipal qui était sur le terrain ce matin au Havre. Édouard Philippe est allé au contact de ses futurs électeurs. Une manière de voir comment sa candidature est accueillie. Et vous l'avez suivi, Claudia Bertram.
Oui, Édouard Philippe lance sa campagne sur le terrain. Le Premier ministre s'est d'abord rendu dans sa permanence très récemment inaugurée pour saluer ses militants. Il s'est ensuite offert une petite déambulation en centre-ville. Édouard Philippe s'arrête pour serrer les mains, prendre des photos avec les habitants. Et il a croisé beaucoup de soutien.
C'est un vrai plaisir d'être revenu.
Ça va bien ?
C'est super. On est super contents. Hier, c'était une super nouvelle. On est fiers de vous.
Ça va pas être facile.
C'est jamais facile.
C'est pour ça que c'est beau.
Bon courage.
Merci.
Merci beaucoup.
Élu dès le premier tour en 2014, beaucoup de sympathisants savent que la campagne s'annonce compliquée avec un contexte social tendu, particulièrement ici au Havre. Mais ce matin, cet habitant qui ne votera pas pour Édouard Philippe a quand même tenu à lui faire un cadeau.
C'était les boutons de manchette à mon père. Moi, j'en ai pas l'utilité, quoi. Je sais que c'est un collectionneur. Après, moi, mes opinions politiques, elles sont pas du tout de son côté. Mais c'est pas un problème. C'est un homme qui a fait beaucoup pour le Havre. Maintenant, sa politique avec Emmanuel Macron, c'est pas du tout mon truc.
Le Premier ministre, visiblement touché, a continué son parcours jusqu'au front de mer avant de s'éclipser. Il passe la journée au Havre. La campagne ne fait donc que commencer.
Claudia Bertram au Havre pour Europe 1. À suivre, eh bien justement, c'est peut-être le résultat d'une des mesures qui tenait particulièrement à Édouard Philippe. 3239 morts sur les routes l'an passé, un chiffre historiquement bas, a annoncé Christophe Castaner, qu'il attribue au passage aux 80 km/h sur les routes secondaires.
Europe 1.
Il est 12h40, la suite du journal, Fabienne Lemoyle.
Un chiffre historiquement bas, voilà comment le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a salué le recul de la mortalité sur les routes de France. 3239 morts l'an passé, 9 de moins qu'en 2018.
Ce chiffre est plus bas que ce que nous connaissions en métropole parce que nous avons porté une politique forte en matière de prévention routière. Parce qu'aussi, nos concitoyens ont conscience du risque sur la route et nous devons, à leur côté, faire comprendre qu'un changement de comportement, des mesures de prévention routière sont des mesures qui sauvent des vies. Et je voudrais évoquer le 80 km/h. Si on prend comme référence les 5 précédentes années avant la mise en place du 80 km/h, nous pouvons considérer que 336 vies ont été épargnées grâce au 80 km/h. 211 vies supplémentaires l'ont été en 2019 par rapport aux chiffres que nous connaissions pour 2018.
Christophe Castaner qui parle d'une politique volontariste avec le passage aux 80 km/h et un résultat salué aussi par Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière.
Cela, nous le devons à la mise en place du 80 km/h. Et ces chiffres sont une nouvelle fois pour nous la preuve que lorsqu'il y a une volonté politique de s'attaquer à la violence routière, les résultats sont toujours au rendez-vous. Nous constatons que, petit à petit, les gens comprennent que ce 80 km/h est acceptable et eux-mêmes minimisent le temps perdu qu'ils annonçaient auparavant. Grâce à cela, nous espérons que la majorité des départements resteront à 80 km/h.
Chantal Perrichon, la présidente de la Ligue contre la violence routière, qui saluait ce résultat de 3239 morts l'an passé, 9 de moins qu'en 2018, et qui répondait à Mathieu Bock.
Europe 1 midi 42, Fabienne Lemoyle.
On l'avait surnommée la reine du suspense, c'était l'une des romancières les plus vendues au monde. Mary Higgins Clark est donc morte cette nuit à 92 ans, Sophie Echen.
Oui, elle a su faire frissonner la terre entière avec ses héroïnes à contre-courant et son don de surprendre à chaque nouvelle histoire, ce moment où tout bascule, qui aura tenu des millions de lecteurs en haleine. Mary Higgins Clark laisse derrière elle une œuvre de 50 romans vendus à plus de 100 millions d'exemplaires, dont 80 rien qu'aux États-Unis. Après un premier échec en 1969 avec son roman sur la vie de George Washington, le succès commence avec son premier polar, La Maison du Guet. C'était en 1975. Après cela, les best-sellers s'enchaînent, Douce Nuit, La Clinique du Docteur H, pour ne citer que, ou encore La Nuit du Renard, qui va la faire connaître en France, une œuvre pour laquelle Mary Higgins Clark remporte le Grand Prix de littérature policière en 1980. Elle a su s'imposer comme une référence dans la littérature policière jusqu'à son dernier souffle, ou presque, puisque son dernier roman, En secret, a été publié il y a quelques mois seulement, en novembre dernier.
Sophie Echen.
Le journal des sports.
Avec Axel May. Bonjour Axel.
Bonjour.
Et première finale en Grand Chelem, première victoire pour une jeune américaine à seulement 21 ans.
Oui, Sofia Kenin, 15e mondiale, vient de remporter l'Open d'Australie en battant en finale l'Espagnol Garbine Muguruza. Le score 4-6, 6-2, 6-2. Kenin n'avait encore jamais dépassé les 8e de finale en Grand Chelem. Née à Moscou, celle qui est prénommée Sofia ou Sonia, c'est selon, est partie enfant aux États-Unis avec comme entraîneur son père Alexander. Elle vit aujourd'hui en Floride. Et à 21 ans, vous le disiez, la voici vainqueur du premier Grand Chelem de l'année.
Et puis un petit cocorico à Melbourne.
Petit parce que c'est chez les juniors, mais cocorico quand même, car c'est un Français qui s'impose en finale. Harold Maillot, 18 ans mardi prochain, a battu son jeune compatriote Arthur Cazot, 6-4, 6-1. Sa réaction au micro de Georges Homsi.
C'était un objectif de s'imposer ici. J'avais en tête de gagner un Grand Chelem junior cette année. Je voulais aussi en gagner l'année dernière, mais j'ai pas été assez bon. C'est un objectif rempli aujourd'hui. Ouais, c'est une émotion de dingue. C'est vrai que après on s'en rend pas compte tout de suite, mais quand on réfléchit un peu, je m'en rends d'ailleurs pas encore compte, je pense, mais. Je pense que dans les heures à suivre, ça va venir. C'est vrai que c'était une émotion assez particulière à la fin du match.
Maillot, classé 527e à l'ATP, est entraîné par Thierry Tulane, ex numéro 10 mondial. Et la précédente fois qu'une finale junior avait opposé à Melbourne deux Français, c'était en 2004, quand un certain Gaël Monfils avait battu Jocelyn Wanard.
Le football à présent et le PSG jouent cet après-midi en Ligue 1.
22e journée de championnat à 17h30. Paris reçoit Montpellier, puis à 20h dans le multiplex. 5 matchs au programme à suivre sur Europe 1, dont Strasbourg-Lille qui sera arbitré par une femme. Stéphanie Frappard n'en finit plus de grimper dans la hiérarchie des arbitres. Et quand on lui demande si c'est dur pour une femme, voici sa réponse.
C'est dur d'être arbitre tout court, en fait. Quand vous demandez à un gamin qu'est-ce qu'il veut faire, il veut être son exemple, c'est Kylian Mbappé, c'est pas Clément Turpin. Donc voilà, forcément, c'est plus dur de se lancer dans l'arbitrage. Moi, c'était mon objectif, c'était de me fondre un peu dans la masse. Et voilà, je pense que j'y suis arrivée, que ce soit sur les compétitions féminines, mais aussi en Ligue 1 avec les performances actuelles.
L'arbitre Stéphanie Frappard au micro de Jean-François Pérez, le chef du service des sports d'Europe 1, a noté que ce week-end, le sport féminin est à l'honneur dans les médias. Opération menée avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Et ce sera le cas aussi ce soir sur Europe 1, autour de Lionel Rousseau, invité 100% féminine.
Exactement. Le tournoi des Six Nations 2020 débute aujourd'hui avec le vainqueur sortant, le Pays de Galles, qui reçoit l'Italie, puis ce soir Irlande-Écosse, et demain le crunch entre la France et l'Angleterre, vice-championne du monde. Et puisqu'on parlait il y a un instant de sport féminin, sachez qu'il y a aussi France-Angleterre chez les filles. Là, c'est aujourd'hui.
Et puis décidément, de la malchance pour le cycliste Axel Domon, fidèle coéquipier de Romain Bardet.
Ouais, Axel Domon a chuté dès l'entame de sa saison lors d'une course en Australie et souffre d'une fracture de l'articulation de la hanche droite. Le grimpeur de 29 ans s'était déjà cassé le bassin l'an dernier. Et depuis le début de sa carrière, Axel Domon s'est cassé aussi 7 fois la clavicule.
Merci beaucoup Axel May. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi, j'anticipe déjà, et difficile d'échapper aux pluies aujourd'hui Valérie Darmon.
Absolument, ou tout au moins aux nuages nombreux et bas, le ciel est bouché depuis ce matin sur les trois quarts de la France, une nouvelle perturbation traverse le pays, seul l'est de PACA et la Corse sont épargnés. Amélioration sensible aussi avec quelques vagues éclaircies de la Bretagne au bassin parisien à partir de maintenant et partout ailleurs. Les pluies sont soutenues avec du vent qui accentue la sensation automnale de notre journée. Demain, le soleil va s'imposer petit à petit de la Nouvelle-Aquitaine à la région PACA en passant par l'Occitanie et une partie de l'Auvergne et de Rhône-Alpes, donc changement de programme. Le ressenti sera très agréable au sud avec toujours une très grande douceur qui va continuer de s'accentuer parce que déjà cet après-midi, il fera à vos thermomètres entre 11 à Embrun et 19 à Perpignan, à Lyon et à Paris, 14 degrés.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, on le disait dans le journal, les Britanniques ont donc dit bye bye à l'Europe, un divorce après 47 ans de vie commune. Le plus gros défi désormais pour Bruxelles, c'est cette période de transition et la construction d'une nouvelle relation avec le Royaume-Uni. On en parle avec mon invité Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes et président du mouvement européen en France.
Il est 12h50, vous écoutez le journal de la mi-journée avec Fabienne Lemoyle qui accueille à présent son témoin de la semaine sur Europe 1.
Et voilà, ça y est, trois ans après le vote pour le Brexit, les Britanniques ont dit bye bye à l'Europe hier, un divorce après 47 ans de vie commune. Une nouvelle histoire à écrire entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Spécialiste des questions européennes, président du mouvement européen en France, vous qui êtes un fervent européen, comment vous vivez cette page qui se tourne? Avec un pincement au cœur?
Oui, le cœur n'est pas brisé, mais il est pincé, oui. Effectivement, parce que nous pensons que l'Union fait la force dans ce monde instable, adverse. C'était d'ailleurs le slogan de campagne de David Cameron, « On est plus fort ensemble, stronger together ». Maintenant, il y a eu un choix démocratique, il faut respecter le verdict, mais un pincement au cœur, parce qu'au-delà de la diplomatie, de l'économie, il y a des relations humaines aussi avec nos camarades anglais, le peuple anglais en général. Donc on peut seulement espérer qu'on va trouver une autre façon de vivre ensemble, fût-ce séparément.
Alors, on l'a bien compris, tout reste à faire. On a vu hier un Boris Johnson qui, avec beaucoup d'emphase, a parlé d'un nouvel acte de notre grand drame national, d'une nouvelle ère de coopération européenne amicale, d'ailleurs a-t-il dit. Comment on va construire cette nouvelle relation? C'est quoi le principal défi pour Bruxelles?
C'est d'abord de savoir ce que veulent les Britanniques. Ils ont voulu divorcer, ça a mis du temps. Alors, le divorce aujourd'hui, il est acté, mais il n'est pas encore consommé d'ailleurs, parce que certes, ils ont quitté les institutions, mais ils restent dans la maison. Hein. Et ils viennent
c'est-à-dire
plus au réunion de famille.
Rien qui change concrètement aujourd'hui, le jour d'après.
Ils appliquent nos normes jusqu'à la fin de l'année. Bon, mais à la fin de l'année, ils sont supposés quitter pour de vrai la maison. Et donc, il faut définir l'endroit où ils veulent aller et puis quelle relation on va établir avec eux. Ce n'est pas encore tout à fait clair. Il y a quand même une déclaration politique d'une vingtaine de pages qui a été adoptée, qui fixe quelques grands principes. Mais surtout, qui liste plein de sujets à traiter, la pêche, les services financiers, les biens, les transports.
Justement,
il faut 11 mois
pour
régler tout ça.
Principales difficultés à venir, la pêche, justement.
Il y a d'abord une grande difficulté, c'est que à l'heure où on se parle, les Britanniques et nous sommes totalement alignés. Bon, ils avaient gardé beaucoup d'autonomie sur plein de sujets. Ils sont pas dans
leur
l'euro,
monnaie,
ils sont
exemple.
Pas dans Schengen, ils roulent à gauche. Enfin, il y avait une spécificité britannique très nette que d'ailleurs l'Europe n'a jamais menacée. Mais pour autant, sur beaucoup d'autres sujets, il y a un alignement. Alors, le Brexit, c'est quoi? C'est la volonté de se séparer, de diverger. Et donc, c'est déjà ça, le défi global. C'est que s'ils divergent, si par exemple, ils adoptent de nouvelles normes environnementales, sanitaires, ils mangent du poulet chloré d'un coup, eh bien, est-ce qu'ils ont encore accès à notre marché? Ben non, puisqu'ils n'appliquent pas les mêmes normes. Donc, jusqu'à quand ils vont diverger? Jusqu'à quel point? Et jusqu'à quel point nous pourrons leur donner accès à notre marché? Ça, c'est le principe général. Et puis après, il y a effectivement, secteur par secteur, des enjeux qu'on traite différemment. Vous avez mentionné la pêche. C'est vrai que la pêche, on a besoin d'eux, hein, parce que nous avons les pêcheurs, ils ont davantage de poissons, mais en même temps, ils ont besoin de vendre leur pêche, parce que c'est nous qui achetons 70% de leurs produits. Donc, il va falloir trouver au sein de chaque secteur, puis entre les secteurs, un accord global, si possible, d'ici la fin de l'année. Sinon, on coupera en tranches et puis on continuera encore un peu après.
L'autre question, Yves Bertoncini, c'est que le Brexit, ça peut donner des idées à d'autres pays européens de sortir de l'Europe? Ou alors les Anglais, comme vous l'avez dit, ils avaient déjà leur singularité depuis leur entrée dans l'Union en 73. D'ailleurs, on l'a dit, ils ont gardé leur monnaie.
Pour l'instant, le Brexit, c'est une contre-publicité. D'ailleurs, ça a pris 3 ans. Personne ne les empêchait de divorcer, mais simplement, ça a déjà pris 3 ans pour qu'ils y arrivent. Alors maintenant, on commence à négocier. Peut-être pour 1 an, peut-être un peu plus. Ça leur a déjà coûté, hein, comme tout divorce, hein, d'ailleurs, en termes économiques, sociaux.
Oui, alors pourtant, c'était un des principaux arguments des Brexiteurs, c'était de dire l'Europe nous coûte trop cher et il faut en sortir, ça ne nous rapporte rien. Le divorce peut leur coûter plus cher.
Je crois qu'ils sont plus convaincants quand ils évoquent une dimension identitaire, émotionnelle, et après tout, quand on divorce même s'il y a des coûts, mais dire qu'on divorce sans coûts, ça, c'est du boniment. Donc ça a déjà coûté. Et du coup, maintenant, évidemment, ils vont essayer de définir une relation future. Les autres peuples regardent. Les autres peuples, pour l'instant, toutes les enquêtes d'opinion, les élections le disent, n'ont pas du tout envie de suivre le chemin des Britanniques. Alors peut-être
même
que dans...
cette montée des populismes, vous me disiez avant l'interview que, par exemple, effectivement, le fait qu'il y ait l'euro, c'est quand même quelque chose de très fédérateur et qui ne donne pas envie de sortir de l'Union.
Ne confondons pas l'europhobie, c'est la haine de l'Europe si forte qu'on la quitte, et l'euroscepticisme. Bien sûr que l'euroscepticisme est fort, les euroscepticismes, y compris en France. Mais ça, c'est la critique de l'Europe qu'on veut transformer de l'intérieur, sans pour autant vouloir la quitter. Monsieur Orban, c'est un eurosceptique hard, mais ce n'est pas un europhobe. Jamais les Hongrois ne voudront quitter l'Union européenne. Et puis, la même chose, Madame Le Pen s'est cassé les dents en France, hein, sur l'euro. Monsieur Salvini a dit que non, bah finalement, l'euro, on l'avait mal compris, ils ne sortiront jamais. Donc, c'est vrai que l'euro, c'est encore, je dirais, le degré supplémentaire. Les Britanniques n'étaient ni dans l'euro ni dans Schengen. Déjà, tous les peuples, c'est l'essentiel, 19 dans l'euro et 22 dans Schengen, ils y regarderaient à deux fois. Et puis surtout, il y a une autre chose. Dans 3-4 ans, on regardera si les Britanniques vont mieux. Peut-être, pourquoi pas. Ils vont refaire leur vie, ça ira peut-être mieux ou pas, mais on verra. Mais admettons qu'ils aillent mieux. S'ils vont mieux, c'est aussi parce que c'est la Grande-Bretagne, c'est le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord. C'est un grand pays qui a une dimension internationale. Je ne suis pas sûr que les plus petits pays se diraient qu'ils pourraient en faire autant.
À l'inverse, Yves Bertoncini, est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, les Écossais, dont on sait qu'ils ont des velléités d'indépendance et qui considèrent qu'en gros, les Anglais leur imposent leur Brexit, demander leur indépendance et rentrer dans l'Europe?
Oui, bah c'est leur tentation. C'est un drame, hein, démocratique, le Brexit. Déjà, les Londoniens qui ont voté massivement pour rester sont très tristes, mais enfin, ils acceptent la loi de la majorité. L'Écosse est une nation au sein du Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et eux, ils ont voté massivement pour rester, 62%. Et donc, la leader écossaise dit, bah oui, bah écoutez, vous voulez sortir, vous sortez, mais nous, on veut rester. Et donc, on va sortir d'abord du Royaume-Uni pour pouvoir rester dans l'Union européenne. Sauf que pour faire ça, il faut qu'elle organise un référendum d'indépendance et qu'elle ait l'accord de Londres. Et si elle ne l'a pas, on rentre dans un scénario à la catalane qui est quand même très incertain. Donc, je crains bien que nos amis écossais fassent aussi les frais de cette décision qu'ils n'avaient pas souhaitée.
Et vous me disiez aussi que ça peut ne pas être bien vu par d'autres pays européens.
Ben naturellement, parce que par exemple, même s'ils arrivaient à avoir un référendum et à rejoindre l'Union européenne, en tout cas exprimer la volonté, ben peut-être que les autorités espagnoles, pour ne pas créer de précédent, eh ben, voudraient empêcher cette adhésion. Donc j'ai le cœur aussi pincé pour les Écossais aujourd'hui.
Merci beaucoup Yves Bertoncini de nous avoir éclairé sur ce jour d'après. On voit encore beaucoup de discussions à venir. Ces 11 mois qui viennent qui seront essentiels. Je rappelle, spécialiste des questions européennes et président du mouvement européen en France. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous le savez, nous poursuivons cette tranche d'information à 13h avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. On va revenir justement sur ce jour historique pour les Britanniques avec nos deux envoyés spéciaux au Royaume-Uni, Théo Manval et Pauline Jacquot. Pauline Jacquot qui a sillonné le nord de l'Angleterre où on rêve d'un âge d'or. Justement, en sortant de l'Union européenne. Et puis, Théo Manval est élu en Écosse, où justement, il y a des désirs d'indépendance encore plus forts. Et puis, on parlera aussi de l'urgence internationale décrétée par l'OMS avec l'épidémie de coronavirus. Comment les scientifiques s'organisent pour trouver un vaccin et un traitement.
Europe 1.